Bonjour. Ravie d'ouvrir la 11e édition du Festival de littérature et d'art contemporain Ritournelle à la librairie Mola, avec la librairie Mola et avec deux auteurs qui sont donc Patrick Autréau et Mathieu Riboulet. Donc je rappelle que notre programmation de Ritournelle commence maintenant et se poursuit jusqu'au 27 novembre, jusqu'à samedi, autour de la question du corps écrit. C'est donc la raison pour laquelle j'ai invité ces deux auteurs. Et nous allons évoquer leur plus récent livre, tout en analysant ce qui relève de cette question du corps écrit dans leurs œuvres. Alors, je vais vous présenter Mathieu Riboulet, qui est à mes côtés, qui est scénariste, réalisateur de films et aussi écrivain, mais qui est surtout écrivain aujourd'hui. Il vous expliquera certainement tout ça. Il a publié à ce jour 9 romans. Il a commencé à publier chez Maurice Nadeau, poursuivi chez Gallimard, et actuellement il publie aux éditions Verdier. Et nous parlerons aujourd'hui de son plus récent texte, qui s'intitule « Avec Bastien », qui a été publié en 2010. En ce qui concerne Patrick Autréau, donc Patrick Autréau a publié cette année son deuxième livre. Il a publié l'année passée, en 2009, son premier livre chez Gallimard. Son premier livre s'intitulait « Dans la vallée des larmes » et il publie cette année donc « Soigné » dans la collection « L'un et l'autre » également chez Gallimard. Je vais interviewer chacun des deux écrivains. Pour parler plus particulièrement de leur œuvre personnelle. Et ensuite, je poserai des questions à chacun qui les relie, en fait, hein, puisqu'il y a vraiment, d'un livre à l'autre, d'une œuvre à l'autre, même si les textes sont très différents, puisqu'on est dans l'un des deux cas, dans le roman, dans l'autre, dans le récit autobiographique. Malgré tout, il y a beaucoup de liens entre ces deux textes, ces deux œuvres. Et donc, je pense que ce sera intéressant, justement, de parler à ce moment-là du corps écrit, principalement, hein, pour qu'il y ait un vrai échange entre ces deux auteurs. Donc, avec Bastien, c'est donc un roman dont dont on sait, en ce qui concerne le narrateur, peu de choses. On sait que le narrateur a l'habitude de regarder des films plutôt pornographiques. Et il va se mettre à raconter et inventer, en fait, l'histoire d'un acteur, d'un film qu'il a vu, un acteur gay. Il va donc inventer son histoire. Alors, c'est un texte sur le désir, sur la fascination. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est pas évidemment l'objet filmique, pornographique, même si on pourra en parler, il y a un rapport important au cinéma dans ce livre. Ce qui est intéressant, c'est que on a le sentiment, en lisant ce livre, que le corps laisse entrevoir, le corps mis à nu, en fait, laisse entrevoir une histoire individuelle. Donc, la question que je voulais vous poser en premier, c'est, d'après vous, est-ce que le corps est le réceptacle de l'histoire individuelle ? Alors, peut-être qu'on peut commencer par raconter un peu le, le livre.
Ne vous inquiétez pas, je vais répondre. Oui, il en est à la fois le réceptacle et l'expression principale. Et une part importante du travail que j'essaye de faire déjà depuis plusieurs livres, mais dans celui-ci sans doute plus frontalement, c'est évidemment de donner une place centrale justement à ce qu'exprime le corps des personnages que je fais exister. Ce qu'exprime le corps qui n'est pas pris en charge par la parole, évidemment. Et dans toutes sortes de variations, plus ou moins heureuses, il se trouve que jusqu'à présent, j'ai plutôt travaillé sur des éléments qui ont à voir avec la souffrance, avec la difficulté, avec l'empêchement. avec la douleur, la maladie, la mort, enfin bref, toutes ces choses joyeuses. Mais, et que dans ce texte-là, c'est vrai que j'ai eu envie d'être plus en phase avec un corps heureux, avec un corps équilibré, avec un corps parfois même exultant, et de montrer à quel point un corps justement expressif pouvait être pour l'être un élément structurant. Voilà, on peut dire ça comme ça.
Alors, ce récit n'est pas autobiographique. Et l'histoire de Bastien est une fiction véritablement.
Oui.
On a donc un narrateur qui regarde un film, qui ne connaît pas le personnage qui se met en scène dans ce film, dans ces images pornographiques, et qui donc va nous raconter l'histoire de ce personnage, de son enfance jusqu'au moment où il se produit dans ces films. Donc, comment vous est venue l'idée de ça, en fait, de cette prise de position-là ?
Mais c'est toujours assez difficile de cerner exactement comment vient une idée au moment de la rédaction du livre. Ce qui est sûr, c'est que c'est pour moi la condition d'entrer dans le livre, la possibilité de l'écrire, c'est ouverte au moment où j'ai trouvé ce dispositif, entre guillemets, parce que j'aime pas trop le mot, est un peu technique comme ça, mais ce dispositif néanmoins où il y avait d'un côté un narrateur dont on ne saura à peu près rien, et de l'autre côté l'objet de la narration dont le narrateur ne sait à peu près rien non plus, et la narration consiste à inventer au personnage qui est sous les yeux du narrateur une vie, c'est une proposition au fond d'évolution du personnage. Donc pour moi ça a été la clé du livre. Une fois que j'ai trouvé ça, j'ai su que au fond je pouvais accueillir tous les accidents de parcours, le livre ne déraillerait pas au fond, que ça c'était suffisamment solide pour que ça puisse marcher. Ensuite, le principe c'est simplement que repose en fait essentiellement sur l'idée que voilà, avec un film pornographique, on est devant une expression incroyablement brutale, sommaire au fond, de tout ce qui a trait à la représentation, à la narration, et même au corps, et que le simple spectacle d'un film pornographique, quand on rentre dans un rapport de fascination avec une figure, ne suffit pas, bien évidemment, à combler l'attente qui se crée et que le corps et que le désir créent. Et donc l'essentiel du livre, c'est ça, c'est de combler au fond cette attente qui ne sera jamais comblée par un récit, avec cette idée que le récit est de tout temps ce qui prend en charge l'attente, la douleur, la joie. Bref, que sans récit, on n'a rien d'autre que des corps qui, pour le coup, n'ont aucun sens.
Oui. À travers l'expression de la pornographie, est-ce que votre recherche ne touche pas au sacré ? Et là, j'aimerais qu'éventuellement on parle de Georges Bataille. Quelle est votre relation à l'œuvre de Georges Bataille ? Est-ce que vous sentez vraiment en accointance avec ses idées et avec sa façon de concevoir la littérature ? Alors je voulais quand même rappeler aussi qu'à un moment donné du texte avec Bastien, dans la scène de pornographie qui est décrite, il y a une table. Donc ce jeune homme, Bastien, s'installe sur la table entouré d'hommes. Et à un moment donné, vous faites la comparaison, vous comparez cette table à l'hôtel et cette table aussi à la table que dans l'enfance... nos mères peuvent utiliser la table de la cuisine, la table familiale rassurante, pour poser un bouquet de fleurs. Donc voilà, j'aimerais que vous nous parliez de ces corrélations. En fait.
Le rapport avec Bataille, en effet, peut venir par la mère, probablement. Il faut préciser, malgré tout, sur cette question des éventuelles influences ou des éventuelles proximités comme ça, que c'est un phénomène extrêmement mystérieux, que j'ai lu quelques textes de bataille il y a 20 ou 25 ans, que je n'ai pas ouvert un livre de bataille depuis donc tout ce temps-là, et que pas un instant je n'ai songé au travail de bataille en écrivant avec Bastien. Pour autant, je ne peux pas en effet récuser cette proximité ou cette parenté, disons, parce que les questions posées par Bataille, mais les questions évidemment posées par d'autres que lui, m'ont éminemment préoccupé de façon délibérée, apparente, officielle, j'allais dire, à un moment. Et puis ensuite, voilà, le flux de la vie, des curiosités, des lectures, fait que la préoccupation éventuellement passe au second plan. Il s'est passé, au fond, la même chose avec la matière, disons, du film pornographique. Du temps où je faisais un petit peu de cinéma, j'avais eu comme ça le désir de moi-même réaliser un film porno, en me disant qu'il y avait peut-être une tentative à faire là, qui sortirait, ou pas forcément le genre des sentiers battus, il ne faut pas être trop prétentieux, mais enfin, qui donnerait une espèce de point de vue un petit peu autre. Et puis j'ai aussi, cette idée est également passée au second plan. Ce qui n'empêche que, des années plus tard, au moment où je me mets au travail sur Avec Bastien, bien évidemment, je vois arriver successivement à la fois ce désir ancien que j'avais eu de faire un film pornographique, ces lectures de Bataille, les lectures de Sade, évidemment, qui est pour moi voilà, l'auteur déterminant entre tous sur ce plan-là. Tout au fond, un cortège d'influences qui ont... j'allais dire merveilleusement œuvré en moi, mais oserais-je dire à mon insu, voilà, et que je retrouve ensuite. Ce que c'est une manière pour moi juste de dire que voilà, il n'y a aucune intention ouverte comme ça, officielle au moment où je me mets au travail, de relier ce que je fais à des choses qui m'ont marqué. Mais bien évidemment, je ne récuse rien de tout ça parce que voilà, c'est tout à fait déterminant, bien sûr.
Alors, effectivement, quand on lit Avec Bastien, c'est un livre très cinématographique. Et vous pourriez presque maintenant faire le film du livre, est-ce que vous y avez pensé?
Oui, enfin, moi, déjà posé cette question une fois, et sur le moment je me suis dit oui en effet, et puis non je crois, j'ai un peu tendance à penser maintenant que je ne parviendrai sans doute pas avec l'image à affiner les choses que j'ai à dire là-dessus, comme j'ai eu l'occasion de le faire avec l'écriture, quoi.
Est-ce que vous avez envie de nous lire, par exemple, juste cette scène récurrente dans le livre, qui est la scène. Peut-être que c'est le choix que vous avez fait aussi après. Non, bah, alors on va passer à Patrick Autrieux, puis après on reviendra aux lectures.
Comme vous voulez. D'accord. Voilà.
Alors, donc, Patrick Autrieux, vous publiez donc votre deuxième opus, qui s'intitule « Soigner », et qui a été précédé donc d'un texte, un autre récit autobiographique, qui s'intitule « Dans la vallée des larmes ». Alors, dans la vallée des larmes a été un livre que vous avez donc décidé d'écrire suite à une grave maladie que vous avez contractée, un cancer, je crois. Voilà. Et ce deuxième livre est plutôt un livre sur l'écriture et sur l'urgence à écrire. D'ailleurs, les premiers mots du livre parlent de l'écriture, parle de la nécessité d'écrire et également de cette maladie que vous appréhendez donc après coup, parce que vous êtes guéri, hein, vous êtes guéri. Et là, vous revenez justement sur ce qui a cheminé en vous de la maladie jusqu'à ce point où vous avez vraiment décidé de devenir un écrivain.
Ce sont deux livres qui sont liés d'abord, qui sont sortis d'un manuscrit raté, tous les deux, et qui se sont soignés, a été engendré par Dans la vallée des larmes. Ce sont deux livres qui traitent de l'expérience intérieure de la maladie, pas tellement de la maladie, mais qui tente d'être une réappropriation subjective de la maladie, puisque dans ma vie, l'ayant vécu comme médecin et comme malade, je le vivais avec une dimension technique. Et ce que je constatais étant malade, c'était qu'il y avait toute cette dimension subjective, d'expérience intérieure, qu'une situation d'extrême peut vous amener à vivre, que je devais écrire. Et c'est là le lien aussi avec Bataille, puisque on en parlait. Moins sur les dispositifs, mais sur le lien avec l'expérience de l'extrême. Oui.
Donc, vous étiez donc médecin psychiatre, vous êtes tombé malade, donc vous êtes passé, comme certains ont dit, de l'autre côté de la maladie, et puis vous avez décidé d'écrire. C'était quelque chose, une expérience, enfin quelque chose auquel vous aviez, une chose à laquelle vous aviez pensé bien avant, en fait, hein, bien avant,
oui,
de devenir médecin, etc.
Oui.
Voilà, vous avez été amené, la maladie vous a poussé à écrire.
Pas vraiment, en fait, parce que depuis que j'ai commencé mes études de médecine, l'écriture et la médecine ont été liées. Plus enfant, adolescent, accumuler du savoir, connaître, aller vers la plus large conscience possible qu'on peut avoir de soi, du monde, ça a été une préoccupation extrêmement présente. La médecine, elle s'est inscrite pour moi dans une vision un peu humaniste, assez utopique en fait, assez humaniste, dans la lignée des Erasme et de ces gens-là, donc voilà, avec cette ambition-là. Et donc naturellement, la poésie, c'est d'abord en fait la poésie, et a toujours accompagné pour moi la médecine et mes études de médecine. Par contre, j'ai été très lent à mûrir sur le plan de l'écriture. Et la maladie a été un des moments qui a accéléré le mûrissement, on va dire. Mais ça n'a pas été décisif. Ça a été un accélérateur sur cette voie de l'écriture, en fait.
À vous lire, on comprend que cette maladie a provoqué pour vous la nécessité d'être enfin, de vous sentir enfin au monde, en fait.
Oui, et c'est pas tant la maladie que le trauma initial de l'annonce, qui est pas dans ce livre soigné, mais qui est plutôt dans la vallée des larmes. C'est vraiment la confrontation avec la mort dans son quasi immédiateté, qui a été un événement particulièrement extrême, que je rapproche, moi, en fait, plutôt d'un texte de Blanchot qui est l'instant de ma mort. Et ça a été ce moment qui est d'une certaine manière un moment fondateur, même si aussi j'aime moyennement l'expression autre côté, parce que il me semble que c'est pas tant l'autre côté, puisque la maladie est pas tellement l'autre côté pour un médecin, mais plutôt un élargissement de la conscience, en fait. Et tout mon travail d'écriture depuis très très longtemps a été dans ce cheminement d'élargir ma conscience de moi-même, du monde, de mes rapports à mon métier de médecin, et puis ensuite à la maladie quand j'ai été malade, d'intégrer, de rompre ces barrières qu'on met, mais qu'on pose, et qui donne l'impression qu'on passe d'un autre côté, alors qu'au fond, on est juste dans le même... Il n'y a pas d'autre côté, en fait. Il y a juste une perspective qui s'élargit.
Voilà. Cette expérience, donc on vous suit donc dans ce cheminement, hein, dans cette expérience, tout au long du récit. Et vous évoquez aussi cette relation aux morts, en fait. Hein, vous revenez sur... d'abord, vous revenez sur les expériences de maladie de personnes qui ont été vos proches, hein, comme d'abord votre grand-mère et ensuite votre grand-père, que vous avez accompagné dans la mort. Et il me semble que ces expériences ne sont pas dénuées d'un certain mysticisme.
Il faudrait s'entendre sur le mot mysticisme. En tout cas, je préfère le... J'aime bien l'idée de caresser l'invisible. Et bon, l'intitulé spirituel, hein, quête spirituelle, corps écrit, quête spirituelle, on en parlait tout à l'heure. Donc le mot spirituel est un mot dont on se défie, je crois. Et si j'entends le mot spirituel dans une clôture, pour employer un terme religieux, dans une clôture humaine, là je reste dans la perspective bataillenne de l'expérience intérieure. Et le mysticisme, s'il est défini comme ça, oui. Et le rapport à l'expérience intérieure de ma maladie, aux gens que j'ai eu à soigner, et puis tous les gens à l'hôpital qu'on peut être amené à rencontrer, un patient... C'est le développement de cet invisible, de cette caresse de l'invisible, de tout ce qui n'est pas dit dans les mots, de tout ce qui est de l'ordre du corps, qui émane du corps et qui est un corps qui n'est pas un corps psychique, qui est un corps sans mots. Voilà. Et pour moi, la définition du mysticisme serait là, cette perception d'un corps sans mots, mais qui émane du corps, enfin de l'être.
Ouais. Dans la relation que vous avez avec vos patients, quand vous reprenez votre activité, donc après cette expérience de la maladie, vous évoquez une relation qui devient, qui n'est plus intellectuelle. Donc vous n'avez plus cette distance que vous aviez quand vous étiez soignant, en fait. Et vous allez même jusqu'à dire qu'il y a une relation érotique qui se met en place. Entre vous médecin et le malade. Donc, vous voulez lire un tout petit extrait éventuellement
que j'ai noté. Vous répondre. Pour moi, l'érotisme, il est forcément lié au dévoilement. Et être dans un lieu où deux inconnus se rencontrent et se confient et donc se dévoilent. L'un écoutant l'autre parlant, mettant en contact deux corps invisibles aussi, puisque dans la rencontre entre un patient et un médecin, on peut dire que c'est une rencontre qui peut être vécue comme unilatérale de la part du patient qui se confie, qui s'ouvre à un médecin qui ne dit rien de lui. Et en même temps, un médecin dit toujours quelque chose de lui, quelque chose qui n'est pas dit et qui fait que ben, quand on est patient, on dit « Ah ben voilà, ça c'est un bon médecin ou c'est un mauvais médecin ou alors il ne m'a pas écouté, il ne m'a pas compris. » Et en ce sens, il y a quelque chose de l'ordre du dévoilement dans cette intimité-là. Et c'est ça que j'appelle érotique. C'est de prêter attention à ce lieu de partage qui est rarement évoqué, en fait, qui est très présent dans la relation thérapeutique et qui est très rarement évoqué par les médecins eux-mêmes.
Mais les psychiatres plus volontiers. Est-elle vécue par tous les médecins ?
Elle l'est forcément vécue, qu'elle soit consciente et mentalisée ou intellectualisée, c'est une autre chose. Par les psychiatres plus souvent, pas toujours non plus, mais plus souvent. Pas. Mais dès que le médecin veut entendre la souffrance de l'autre dans sa souffrance subjective et non pas la souffrance qu'il peut objectiver. Je ne dis pas une souffrance objective, mais une souffrance qu'il veut objectiver. Dès qu'il laisse passer, dès qu'il n'arrête pas sa perception ou qu'il ne repousse pas sa perception de cette part subjective du vécu de son patient, là, il y a un partage d'invisible. Et donc, il y a pour moi quelque chose qui s'apparente à l'érotique, en fait.
— Alors, il y a une autre chose que vous évoquez assez longuement dans votre livre, hein, et en rapport avec tous les questionnements qui sont sous-jacents, c'est la lecture de Walden de Thoreau, en fait, et tout ce que suppose cette lecture. Comment, donc c'est un texte ancien, hein, qui est très connoté, comment vous l'associez à votre démarche ?
Qu'est-ce que vous entendez quand vous dites connoté ?
Disons qu'il appartient à une époque. Alors, comment vous le lisez, vous, aujourd'hui ? Quelle lecture vous en faites aujourd'hui ?
Alors, bon, c'est, avec les textes, les auteurs, les livres, c'est aussi des rencontres. Hein. Donc, il se trouve que j'ai rencontré Walden et Thoreau en particulier à un moment particulier de ma convalescence. Donc, ça a été un moment qui était aussi un moment de retraite. Voilà. Bon, c'est peut-être pas par hasard que je suis allé vers ce livre, parce que j'en avais entendu parler, évidemment. La lecture politique de Walden, c'est quand même, elle est plus actualisée maintenant dans une lecture politique, que ce soit de Walden ou de Thoreau en général, elle n'est pas vraiment la mienne. Elle existe pour moi, mais c'est pas ce qui me paraît frappant. Par contre, la manière qu'il a de converser avec la plupart des textes de mystique. Ça, c'est quelque chose qui m'intéressait chez Thoreau parce que c'était de nouveau un dialogue avec l'invisible qui passait en même temps par un contact avec la nature qui avait quelque chose d'un peu panthéiste. Alors, je vais rapprocher deux auteurs qui vont vous paraître étranges, mais quand j'étais plus jeune, j'étais assez lecteur de Teilhard de Chardin. Et j'aimais bien cette forme de tentation, tentative d'unicité, d'unicisation ou de spiritualisation de la matière, qui est très présente chez Teilhard de Chardin. Je retrouvais un peu ça chez Thoreau. Pas dans une perspective chrétienne. C'est ce qui, à ce moment-là, et donc pas dans une perspective religieuse, mais vraiment dans un, comme on disait précédemment, dans un rapport avec quelque chose de la perception aussi, de l'invisible, de... oui, voilà.
Mais, dans cet ouvrage-là, il y avait quand même une critique du monde occidental. Et on a quand même le sentiment, à vous lire, et ensuite à vous entendre, puisque vous m'avez dit que vous aviez totalement cessé d'exercer la médecine, que vous souhaitiez vous consacrer entièrement à l'écriture. Est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, un rejet de votre part du monde occidental, notamment de la profession qui a été la vôtre jusqu'à présent ? Est-ce que vous...
Non, je n'ai pas rejeté la profession. C'est pas, là, il y a un mélange de choix personnels et puis de désir d'aller vers un autre type de rapport, de compréhension, en fait. Je reste assez proche de la psychanalyse, donc je ne rejette pas du tout le monde de la psychiatrie ou de la psychanalyse. Mais qu'il y ait une position de marginalité, oui, je veux bien. Écrire ces textes, c'est aussi... c'est aussi aller vers tentative de faire prendre corps, de donner un vrai corps, c'est un poème de bonne foi, un vrai corps, de donner un vrai corps à quelque chose d'intérieur dont j'ai l'impression qu'il se dilue si je n'écris pas et si je ne consacre pas ma vie désormais à écrire. Et je souffre beaucoup de la manière je souffrais beaucoup de la manière dont beaucoup de patients que je voyais racontaient leur cette sorte de dilution qu'ils éprouvent dans leur vie intérieure, dans leur difficulté à se rassembler, à trouver intérieurement une forme de densité qui les apaise, en fait. Et écrire, pour moi, c'était essayer de donner ma réponse et une sorte de main tendue à ceux qui souffrent de cette impression d'être dilué dans le monde contemporain, de ne pas réussir à se à prendre corps, justement, là, pour le coup.
Vous accordez un pouvoir cathartique à l'écriture.
Je ne sais pas si c'est cathartique, parce que je ne sais pas, parce que dans la catharsis, il y a quelque chose de l'ordre d'un règlement de quelque chose, d'une purge aussi, de cette idée-là, que je ressens pas, moi, en fait. Il y a eu toute une période, c'est peut-être pour ça que j'ai été si long à naître à l'écriture, il y a eu une dizaine d'années de travail, de textes qui n'ont pas été publiés et qui ne seront pas publiés, qu'on peut dire cathartique, qu'on peut dire thérapeutique, si on veut. Là, c'est autre chose. Il y a le chemin vers cette densité, se faire prendre corps à quelque chose.
En moi. Alors, il y a beaucoup de choses qui relient vos deux textes, hein, vos deux œuvres. Il y a notamment le rapport du corps à l'espace géographique. Alors, Mathieu Riboulet, cette thématique-là est très présente dans tous vos livres. Hein. Je ne sais pas si... Je ne crois pas que vous soyez vraiment d'origine corrézienne, mais enfin, en tout cas, vous êtes un peu implanté en Corrèze. Qui est aussi la région de Pierre Bergoglio, dont l'écriture est quand même assez proche de la vôtre, ou la vôtre proche de la sienne. Et j'aimerais que vous nous parliez de cette force-là, en fait, de l'espace géographique.
Mais c'est une vaste question.
Faire corps avec l'espace.
Mais bien sûr, il me semble que le... La capacité qu'on peut avoir à se situer dans l'espace, à savoir exactement quelle est la place qu'on occupe à la fois dans un espace évidemment physique, comme par exemple dans cette salle, ou dans des espaces infiniment plus abstraits, et je pense en particulier à la place qui est la nôtre quand on se met à écrire par rapport à ce qu'on écrit, mais ça peut être aussi les places qu'on occupe les uns par rapport aux autres, aux gens qui nous entourent dans la constellation amicale ou affective de nos existences, est une chose absolument déterminante. Et pour moi, ça n'est pas dissociable. Pour moi, tous ces niveaux de place ont tous à voir avec la géographie. Je crois qu'en celui qui m'a ouvert les yeux sur cette question-là, même avant que je lise Pierre Bergoglio et en effet les admirables développements qu'il apporte, c'est Fernand Braudel. Tout simplement, et son attachement à mettre à jour à la fois les histoires de la durée, c'est-à-dire la longue durée ou la durée plus courte dans l'histoire, et à la fois l'importance, évidemment, l'idée, l'histoire, c'est d'abord la géographie, voilà, bon, c'est vraiment cette idée-là. Et finalement, ces idées relativement simples mais très puissantes qu'a développé Braudel m'ont tout de suite paru bien évidemment s'appliquer tout à fait au-delà du champ historique, simplement au champ individuel, l'histoire de la longue durée, l'histoire des choses qui se jouent en nous et qui ont commencé il y a 350 ans et qui vont se poursuivre derrière nous, ou celles qui ont commencé avant-hier et qui évidemment se jouent sur des terrains tout à fait différents. Si on est à même de les identifier, si on est à même de voir où ils se situent les uns par rapport aux autres, on est incontestablement plus fort ou mieux installé dans son existence. Et la tentative que je fais avec Bastien, entre autres choses, c'est d'essayer de parier justement sur un personnage qui aurait reçu de son éducation et de l'endroit où il est né la compréhension quasi instinctive de ces choses-là, et donc une faculté à aborder sa propre vie et à se tenir dans sa propre existence qui lui facilitera grandement les choses. Inversement, dans d'autres livres, donc, comme je disais tout à l'heure, où j'étais beaucoup plus du côté de la souffrance ou de l'empêchement ou de la maladie, c'était également des histoires de place à occuper qui éventuellement barraient le point de vue, barraient les possibilités, barraient les développements. Et pour éventuellement faire un lien avec cette thématique qui est si présente dans les livres de Patrick Autréot, c'est la question de la maladie, qui n'est pas du tout présente dans ce livre-là, mais qui a été longtemps présente dans des textes que j'ai pu écrire avant, elle est bien évidemment, en tout cas pour moi, complètement liée à cette histoire de place. C'est-à-dire que la maladie est un de ces événements qui vous retire de la place que vous occupez d'habitude et qui vous met comme ça dans une sorte d'endroit un tout petit peu retiré, où vous n'êtes coupé de rien, mais où forcément la distance que vous avez acquise à cause ou grâce à la maladie vous fait porter sur l'espace habituel que vous occupez ordinairement un regard tout à fait différent. Et la chose la plus intéressante, et c'est là où il se confirme que la géographie et l'histoire ont évidemment partie liée, c'est que ce déplacement dans l'espace entraîné par la maladie ouvre un autre temps. Et l'autre espace et l'autre temps sont, à mon sens, les deux conditions sine qua non pour faire l'expérience de l'écriture. Moi, j'ai toujours été, en tout cas, en ce qui me concerne, dans mon parcours, ça a été absolument déterminant. L'expérience de la maladie, l'expérience de l'éloignement, a absolument à voir avec le déclenchement. Patrick parlait tout à l'heure d'accélérateur, comme ça, mais c'est bien évidemment. On rejoint aussi ce dont Patrick parlait tout à l'heure, l'idée du dévoilement, c'est-à-dire qu'on est bien évidemment soudain devant des réalités tout à fait autres, et donc la question de l'écriture se met en place à ce moment-là. Et ce qui est particulièrement prégnant dans Soigner et dans le livre précédent, et qui organise les deux, à mon sens, vraiment comme un tout, enfin, pas forcément fermé, mais enfin, disons comme un ensemble, c'est précisément l'extrême attention à ce processus très curieux qui fait que, voilà, on d'un seul coup, avec, ça peut être de la douceur et parfois évidemment une très 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 grande violence, on se retrouve amené à être déplacé dans le temps et dans l'espace, quoi.
Vous avez aussi pour point commun, me semble-t-il, et je posais la question à Patrick Autréot, la question des origines. C'est-à-dire qu'il me semble que tous les deux, vous associez à l'expérience d'écriture la question de la recherche des origines. Et là, peut-être on peut évoquer la question aussi de la géographie familiale. Il me semble que la famille, enfin l'évocation de la famille, notamment chez vous, Patrick Autréot, à travers la maladie, est importante, en fait, par rapport à la compréhension de l'espace qui sera le vôtre et la compréhension de votre vie intérieure. Tout ça étant sans doute peut-être relié aussi à l'espace géographique. Hein.
Oui, c'est possible. À la fois, oui, bien sûr.
Il me semble que votre corps soit dépositaire de l'histoire des autres, notamment de celle de vos grands-parents.
Oui, c'est en rapport avec plutôt le deuil, alors c'est l'espace du deuil, c'est une sorte de géographie du deuil. Mais la géographie, au moins dans la Vallée des Larmes, et moins dans Soigné, mais elle me semble une géographie assez imaginaire, en fait. Mmh. Elle est un des textes avec Thoreau que j'ai découvert à la même époque, et c'est sur l'exotisme de Victor Segalen. Mmh. Et en écoutant Mathieu parler, je pensais à cette question de l'exotisme et de cette place que l'exotisme, que d'un événement biographique particulier, qu'il soit un deuil ou une maladie, peut provoquer dans une vie. Et il me semble que dans mes livres, ma position, elle est une position exotique par rapport d'étrangers, d'exotes, hein, comme dit Victor Segalen, par rapport à ma propre famille, ma propre histoire, mon deuil. Parce que c'est aussi, ou du moins Soigné, c'est l'histoire c'est l'écriture, c'est la déconstruction d'une reconstruction, puisque bien évidemment, j'ai penser, intellectualiser mon parcours personnel et puis mon rapport à mes parents, mon grand-père, ma grand-mère, le deuil, etc. L'ayant intellectualisé, je ne voulais pas que... Je voulais que l'écriture apporte quelque chose qui soit plus proche, en fait, de la vie ou de sa propre mémoire, parce que la mémoire elle peut se reconstruire, mais la mémoire elle est construite d'invisible, de flou, avec un fil ténu qu'on voit à un moment donné, un petit fil rouge qu'on a l'impression de suivre et de repérer, qui peut être par exemple le fil de cette une vocation et un lien avec un grand-père. Mmh. Et en même temps toute une dimension de reconstruction a posteriori dont je me méfie terriblement. Et la géographie, elle se place un petit peu aussi avec la même idée. C'est que la géographie de Mathieu, c'est quand même une géographie qui est
incarnée.
Oui, et qui est reconstruite et déconstruite à la fois. On n'a pas un récit de voyage, on n'a pas une description, on a
elle est aussi inventée,
une langue qui est inventée. Mmh. Hein. Je ne connais pas la Corrèze, mais je ne suis pas sûr de trouver la Corrèze ribouletienne.
Non, Mathieu Riboulet.
Non, bien sûr. Mais, oui, de toute façon, je crois que le paysage, par exemple, pour rester sur l'idée de la géographie physique, le paysage qui est présent dans Avec Bastien, qui est effectivement un petit bout de la Haute Corrèze, est à la fois parfaitement exact, disons, voilà, tous les noms de lieux existent, les distances sont bonnes, les orientations également, enfin voilà, tout existe, bien sûr, et en même temps, il va sans dire que aucun de vous qui irait à cet endroit-là ne verrait ce que j'y ai vu ou ce que j'ai tenté d'en restituer, parce que la géographie physique n'est jamais une donnée seule, isolée, et qu'elle est évidemment sans cesse, j'allais dire parasitée, mais plutôt bombardée par la géographie humaine, la géographie sentimentale, la géographie familiale, bien sûr, et la géographie historique, on pourrait dire. Et bien sûr, tout paysage est le fruit de l'ensemble de ces interactions. Et la tentative, me semble-t-il, intéressante. Et à cet égard, l'exemple de Pierre Bergougnoux dont vous parliez tout à l'heure est évidemment très, très éclairant. C'est de pouvoir faire tenir ces différentes strates, pour reprendre le terme que j'employais tout à l'heure à propos de Braudel, dans quelques pages, quoi, dans un récit qu'on décide de construire. Et bien évidemment, ce travail d'unification entre les différentes géographies, il ne peut se faire, en tout cas dans le cadre du récit, bien sûr, que par le travail de la langue. À l'ensemble des géographies dont il vient d'être question, s'ajoute, au fond, on pourrait dire effectivement la géographie de la langue, et c'est cet ensemble, au fond, incroyablement mêlé, qui apparaît dans le livre, mais dans d'autres livres aussi, bien sûr. Oui.
Comme vous savez, en fait, ils ont tous les deux voyagé en train, ensemble. Et ils ont décidé de lire chacun un extrait du livre de l'autre qu'ils auront choisi. Voilà, donc je vais leur laisser la parole pour ces lectures brèves. Et ensuite, je vais vous laisser la parole si vous avez envie de leur poser des questions. Alors, on va commencer par Mathieu Rigoulet qui lit Patrick Autréhaut.
Si tu me dis juste trois commentaires, on me dit. Trois commentaires. Ouais. Étudier la médecine aura été au cœur d'une ambition, désuète peut-être, encouragée par mon grand-père et héritée des leçons buissonnières qu'il m'avait données, estimant l'école défaillante, et qui avait suivi, au gré de ce qu'il flairait dans l'air du temps, les programmes des messieurs raides à moustache de la Troisième République. Je n'en finissais pas d'emboîter le pas aux humanistes anciens et modernes, dépassant le but scolaire puis universitaire qu'avait visé, je crois, mon instituteur particulier, ou plutôt l'explosant à ma manière. L'inventaire et l'accumulation du savoir, qui excédait la médecine et s'étendait à un tas d'autres disciplines, ne m'intéressait pas pour réussir des concours, mener une belle carrière ou exercer un métier lucratif, ni pour briller en compagnie, où de toute façon ma bouche s'empêtrait dès qu'on demandait mon avis, ni à cette époque pour soigner des gens. Je m'émerveillais d'explorer avec méthode le vivant et ses ratés, curieux surtout des théâtres du minuscule. Je voyageais à même le monde, rêvassais à son origine et m'imaginais le posséder par la connaissance de son architecture. Je voulais comprendre plus, plus finement. J'étais atteint par la folie du réel. Ces études nécessitaient l'apprentissage d'une langue et d'une manière de penser nouvelle qui avait réveillé en moi, avec une sorte d'insolente innocence, comme autrefois les grammaires, dictionnaires et encyclopédies que mon grand-père m'avait fait compulser, cette capacité à diffracter ce que j'entendais. Des mots, connus ou pas, me fascinait brusquement pendant les cours. Dans ces amphithéâtres où grouillent 400 à 500 étudiants qui s'envoient en hommage des avions et des boulettes en papier, lancent des cris de chatte en chaleur ou s'agacent en chute-chute au milieu des ovnis, ils faisaient saillie dans l'air comme des échardes sur le fuselage du savoir. Rétifs au ronron de la parole ou de l'écrit, ils se hérissaient en une aura magnétique sur le monde matériel. Autant de passe-passe de la poésie qui transfiguraient des mots banals. Cellules, nerfs, tubes, flux, vaisseaux. Quand j'ai vu et entendu s'épanouir avec le plus d'étonnement, mêlant la mer et le sang, les grands fonds et l'horizon des nouveaux mondes, et secouant mon esprit pour le faire brasiller de joie et de gratitude. Ou plus technique, trochanter, défilé, scalène ou symphyse, mots qui embellissaient, malgré l'austérité de nos professeurs, les descriptions anatomiques ou physiologiques, et les extradaient des tripailles des cadavres que nous disséquions. Entre deux griffonnages de notes, ces visions me dictaient des poèmes. À la féerie médicale s'est superposée un peu plus tard, sans jamais l'occulter, la réalité physique. Mais les souffrances se situaient dans une planisphère morale qui ne me concernait que de loin, par une sorte de gravitation éthique. Lorsqu'on commence à fréquenter l'hôpital, certains symptômes et maladies paraissent comme des papillons rares. La compétition pour les concours accentue le bon droit du carabin à l'affût des malades intéressants à palper et étiqueter, des cases à collectionner, et explique pourquoi on défile, la courtoisie la plus respectueuse ne changeant rien à la froideur de la démarche, dans une chambre, devant un lit, où on est surpris de saluer un patient pas peu fier de son foie noduleux, de son pigeonnier dans la poitrine. Mais ces étrangetés fascinent peut-être aussi parce qu'elles signent la présence de cet invisible qu'on a tôt fait d'assimiler au mal, saloperie à respecter et à combattre, et qui représente un réel bien plus saisissant que les descriptions des livres. La quête de ce genre de réel est une obsession chez les étudiants.
Patrick Autréhaut.
La mort de Martin força Bastien à repenser à ses parents, à son enfance, à ses frères, à un moment de sa vie où il n'avait nullement prévu de le faire. Mais il prit cela avec le sérieux naturel qu'il attachait aux choses, habitué qu'il était depuis son plus jeune âge à distinguer le futile, le facile, de l'important, du grave. Comme il avait été un petit garçon déterminé et un adolescent obstiné, il devenait peu à peu, et la mort de son père évidemment l'y aida, un adulte résolu. Pas question de prendre les choses à la légère et pas question non plus d'en faire un drame. Il passa, après l'enterrement, un long moment à Bong avec Alice, Emmanuel et Christophe étant repartis en promettant de revenir l'été venu, Emmanuel avec sa femme et son premier fils dont il attendait la venue d'un jour à l'autre. Alice avait consenti à ce qu'il restât malgré le besoin de solitude qui l'avait envahi, car elle savait pouvoir compter sur la discrétion de son cadet. De fait, Bastien filait dès l'aube, parcourait de nouveau les rochers sur lesquels il avait fait ses premières armes de grimpeur, sillonnait le massif à pied, s'arrêtait de longs instants aux abords des chantiers forestiers pour contempler les bûcherons au travail et repartait comblé. Le temps s'était mis au beau. Martin était mort, mais le corps exultait, la vie qui animait Bastien débordait de toutes parts. Au cimetière, déjà, il n'avait eu Dieu que pour un maçon à peine plus jeune que lui, plein d'une grâce bougonne et rougissante, chargé de refermer la lourde dalle de granit. Les morts ne sont pas au ciel, mais en terre. C'est sur eux qu'il faut marcher. C'est sur eux qu'il faut entraîner avec soi pour avancer, comme Bastien le faisait depuis son enfance, en emmenant Nicolas partout avec lui. Il rentrait, exténué et ravi, tâchait d'insuffler une part de ce ravissement à sa mère, qui en manquait un peu, bien qu'elle ne se fût pas retrouvée démunie par la mort de Martin, qu'ils avaient vu venir et mûrement préparé. Elle savait déjà que ces derniers mois de vie commune lui seraient une force pour plus tard, pour affronter la suite. Ensemble, ils gravissaient la pente du Vareron en silence, pensant l'un et l'autre aux Indiens endormis cachés derrière le Sancy, à l'exaltante petitesse qui nous est impartie. Ces jours de malheur heureux permirent à Alice d'atténuer la violence des événements qui, en l'espace de 3 mois, l'avaient obligée à tout à fait renoncer à l'idée de vieillir avec Martin. Puis, Bastien regagna Paris. Il était entendu qu'il reviendrait dans l'été faire connaissance de son neveu. Je peux lire encore une page ?
Allez-y, bien sûr.
Une page qui m'a fait penser, je disais à Mathieu, une citation de Lacan qui dit, il y a, à propos de Saint Jean de la Croix, et il dit, il y a des hommes qui sont aussi bien que les femmes. À propos de l'extase. En intégrant le corps des sœurs de la perpétuelle indulgence, Bastien rentre au grenier de Bong, prend son aïeul par la main, et Suzanne, et les bergères audacieuses, que n'effrayait pas la rigide vertu de sermon, qui se donnait au loup. Investi de leur courage, il parvient là à dire quelque chose, sans discours, sans gloriole, à l'immensité que le couronne depuis sa naissance, et à laquelle, si longtemps, il n'avait su adresser que moulinet rageur des bras, pleurs de colère, invectives décousues. Un jour, il sortirait en sœur, et à celui qui lui dirait « Oh la fille !» il éclaterait la tête pour qu'il soit bien clair qu'aux filles, aux sœurs, quelles que soient leurs dégaines, leurs actes, le genre qu'elles se donnent, il faut faire place, quitter les sphères où l'on s'égare, descendre à leur côté, mettre la main à la pâte, ouvrir les portes des maisons, sortir, marcher, aller où la présence est nécessaire, parler, ouvrir les bras, porter, déposer et inlassablement regagner les maisons pour recouvrer ses forces avant de repartir. Les sœurs ont à voir avec les putains, elles arpentent les trottoirs, vont aux hommes pour alléger leurs charges et leur parure de fête jette le trouble où elles passent en laissant un parfum entêtant de désir et d'amour. Bastien a quelque chose à voir avec le ciel, avec les hommes. Il a la force, l'éclat, la puissance du don. Il sait d'instinct et sans parole qu'il n'a de plus profonde joie que de se dissoudre là où l'on baise, là où bientôt l'on pleure, là où tôt ou tard l'on souffre. L'orgueil démesuré de l'enfance trouve à ses accomplissements des bonheurs infinis. Les cieux de Bong, peuplés d'Indiens, endormis, le protègent et Nicolas toujours, et Martin désormais.
Merci. Je vous remercie à tous les deux
d'être
venus à cette invitation pour le festival et puis pour la librairie Mola. Merci.
Merci.